Une petite introduction qui n'est pas dans mes notes, mais que le suivi des discussions de ce matin particulièrement me conduit à faire. Parce que dans l'invitation que m'a adressée Jérémy, le texte de proposition de communication pour ce colloque, il y avait deux références pour le mot matrice, une sur laquelle je vais revenir et sur laquelle nous sommes déjà revenus ce matin, celle de Kuhn, les matrices disciplinaires. Et puis, il y avait aussi la référence à Paul Klee, la fameuse phrase remontée du modèle à la matrice. Et j'aurais bien aimé être capable de parler des deux. Et c'est trop compliqué, c'est trop long pour une matinée de communication. Et puis aussi parce que la fameuse phrase de Klee est une traduction, certes, je m'en suis expliqué plusieurs fois dans plusieurs textes, est une traduction géniale, mais c'est une traduction que dans le texte allemand, il n'y a pas le mot matrice. Il faut travailler les mots allemands pour arriver à cette notion. Je pense que le traducteur a vu juste, mais c'est quand même pas littéral. Donc, laissons de côté quelques envies que j'ai de parler de Klee et de sa façon de comprendre la notion de matrice, et puis concentrons-nous, si vous voulez, sur ce qui est au fond et quand même le centre des communications de ce matin, la façon dont Kuhn a entendu la notion. Alors, c'est fin de l'introduction que je n'avais pas préparée. Maintenant, je vais vous parler plutôt de celle que j'avais préparée, c'est-à-dire donner lecture du petit texte que j'ai adressé à Jérémy et aux organisateurs pour justifier mon titre de l'exemplification du design. Alors, je précise, je pense que vous allez l'entendre d'ailleurs au fur et à mesure, enfin j'espère que vous allez l'entendre, c'est-à-dire que j'avais été capable de l'expliquer correctement au fil du propos. Au fond, la question qui m'occupe derrière tout mon propos de ce matin a trait à quelque chose que j'appellerais la possibilité d'enseigner le design. Ou pour dire un mot qui m'intéresse de plus en plus, il serait temps la possibilité de l'étudier. Parce que je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important de rappeler l'importance de ce mot étudiant. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à des étudiants en design qui seraient par hypothèse la position de base qui serait la vôtre. Je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous dans le public. Il y a un maître mot qui nous occupe les esprits, à mon sens, exagérément. J'en ai fait d'ailleurs de cette question un livre. C'est le mot de recherche ou de chercheur. Et je pense que avant d'être en situation de recherche, il faut d'abord avoir étudié. Et c'est ça qui m'occupe de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des études de design qui sont pour moi autre chose que une formation au design. La formation au design, je l'inscris comme étant, conformément d'ailleurs à l'histoire du mot, je l'inscris comme appartenant à une tradition de professionnalisation. Et là aussi, on va peut-être vite. Avant d'être un bon professionnel, il faut peut-être avoir pu être un bon étudiant. Et donc, voilà le contexte de ma réflexion et qui. Je voudrais essayer de traduire donc dans une définition de qu'est-ce que c'est, est-ce que ça peut exister un bon exemple de design. Et imaginons que je sois enseignant et que je veuille aux étudiants auxquels je m'adresse donner des exemples de design. Qu'est-ce qui garantit que les exemples que je leur propose sont en effet des exemples, de bons exemples de design? Alors, j'avais écrit les petites phrases suivantes pour donc présenter ma communication. Je vous les lis tout simplement avant d'entrer dans le propos lui-même. La notion de matrice disciplinaire renvoie donc chez Kuhn, je vais surtout lire ça chez Kuhn, la notion de matrice disciplinaire renvoie chez Kuhn à celle de paradigme, comme Jérémy l'a rappelé tout à l'heure. Alors, sans poser, pour ce qui me concerne, que l'historicité du design est comparable à celle des sciences, donc je reviens aussi à une discussion d'avant la pause, Je ne pose pas donc que l'historicité du design est comparable à celle des sciences. Autrement dit que, non, je m'en tiens là pour le moment, sur cette formule. Sans poser que l'historicité du design est comparable à celle des sciences, je voudrais donc montrer que l'idée de proposer à des étudiants des cas paradigmatiques de design ne va pas de soi, méthodologiquement parlant. Il y va d'hypothèses dont l'explicitation est souvent insuffisante. Pour tâcher d'éviter ce défaut, c'est-à-dire le fait que nous autres professeurs, nous proposons aux étudiants des exemples de design sans nous expliquer assez sur ce qui fait que nous pensons que ce sont de bons exemples de design. Donc, il y va dans cette démarche fréquente d'hypothèses dont l'explicitation est souvent insuffisante, et pour tâcher d'éviter ce défaut, je voudrais, en me rapportant aux réflexions les plus générales de Kuhn, poser la question de savoir ce qui peut, dans le champ du design, faire d'un exemple un bon exemple. Fin de l'introduction rédigée. Je passe au vif du sujet. Il n'y a pas de parti. C'est juste un raisonnement qu'il faut essayer de suivre d'un bout à l'autre et qu'il faut que moi je parvienne à présenter à peu près correctement d'un bout à l'autre. Alors, je me préparais, il y a quand même quelques semaines de ça déjà, je me préparais à rédiger les éléments de la communication que je vous propose à présent lorsque, un hasard de courrier m'a mis sous les yeux une traduction d'un texte ancien qui date du 1er siècle de l'ère chrétienne, l'Institution oratoire, livre 8. Donc, m'arrive une traduction de ce texte, une nouvelle traduction de ce texte. Et j'y trouve une manière d'introduire mon sujet beaucoup plus vite que je ne le pensais auparavant. Alors, je vous lis l'extrait de l'Institution oratoire qui m'a arrêté, donc, et permis d'introduire mon sujet, finalement, pas trop mal, je l'espère. Un jeune homme écrivait Quintilien. Alors, Quintilien, c'est l'auteur du texte, hein, de l'Institution oratoire. Un jeune homme qui commence à étudier l'éloquence a besoin qu'on le mette dans le chemin. Petite parenthèse, méthode. Il y a un vieux mot grec qui résonne dans ce mot, odos, qui veut dire chemin, cheminer. Être méthodique, c'est suivre un chemin d'une certaine manière, en tout cas suivre un chemin. Donc je reprends ma citation. Un jeune homme qui commence à étudier l'éloquence a besoin qu'on le mette dans le chemin. Mais ce chemin doit être facile à tenir et à montrer. Vous voyez que les questions pédagogiques ne datent pas d'aujourd'hui. Ce chemin doit être facile à tenir et à montrer. C'est donc, dit Quintilien, alors je reviendrai sur ce donc, c'est donc à l'habile maître dont j'ai parlé, à choisir la méthode qui lui paraît la meilleure. Donc, il s'agit d'apprendre à des jeunes étudiants à devenir de bons orateurs. Enfin, par traduction, il s'agit d'apprendre à de jeunes étudiants et étudiantes à devenir de bons designers. Et il faudrait pour ça disposer d'un chemin facile à tenir et à montrer. Et il incomberait à un habile maître, habile et maître, de choisir la méthode qui lui paraît la meilleure et à se contenter de donner les principes qu'il juge les plus nécessaires. Se contenter de donner les principes qu'il juge les plus nécessaires. Donc vous voyez que dans cette longue tradition de pensée, il faut un maître, il faut une habileté et quelque chose qui suffit, mais dont le choix repose tout entier sur l'habileté en question du maître en question. Alors quand Thomas Kuhn écrit 19 siècles plus tard, c'est aussi au cheminement de jeunes étudiants qu'il pense, c'est très clair dans son texte. Mais son propos se distingue, je crois, de celui de Quintilien sur deux points. Le premier tient au fait qu'en traitant de l'éloquence, Quintilien traitait d'un art, l'art oratoire, et non pas d'une science au sens moderne du mot. Le second point qui distingue Kuhn de Quintilien, le propos de Kuhn de celui de Quintilien, se déduit de celui que je viens de vous dire. S'il s'agit de science, Alors la méthode, le chemin d'apprentissage ne saurait dépendre de la seule habileté d'un maître voué à choisir la voie. Je crois que c'est une thèse profonde de Kuhn sur la pédagogie des sciences que de dire que justement, ce qui caractérise cette pédagogie, c'est qu'elle ne repose pas sur l'habileté d'un maître voué à choisir la voie la plus facile. Ce point est capital pour comprendre la portée chez Kuhn du concept de paradigme et de matrice ou de matrice disciplinaire, puisque en fait, Jérémy l'a rappelé, la postface ou la nouvelle, je sais plus si c'est l'introduction d'une postface enfin de 69, dans laquelle Kuhn dit, on m'a dit, oh, le mot paradigme dans votre édition de 62, c'est pas terrible. Et donc, il dit, bah, je vais dire matrice disciplinaire et comme ça, tout le monde sera content. Hein. Mais au fond, pour lui, ces deux mots se traduisent l'un l'autre. Hein. Donc, le point capital pour comprendre la portée du concept de paradigme ou de matrice disciplinaire chez Kuhn, c'est de comprendre que dans le cas des sciences au sens moderne du mot, la seule habileté d'un maître ne suffit pas à choisir la voie. Et c'est même pas là essentiellement que se passe l'étude, l'apprentissage d'une démarche scientifique ou d'une attitude scientifique. Kuhn établit dans son livre, en tout cas affirme, je le cite, qu'en musique, dans les arts graphiques et la littérature, le spécialiste se forme par contact avec les travaux d'autres artistes, en particulier d'artistes du passé. Fin de citation. Dans la période où le jeune n'est encore qu'étudiant et non pas déjà, j'insiste, chercheur, il a, dit Kuhn, je cite de nouveau, devant lui diverses solutions concurrentes et incommensurables. Je ne sais pas si j'ai pas fait un lapsus à l'instant, dans la période où l'étudiant en art, où le jeune est étudiant en art et non pas déjà chercheur, il a, je cite Kuhn, devant lui diverses solutions concurrentes et incommensurables. Dans les domaines des sciences de la nature, en revanche, ceux qui apprennent, toujours pour Kuhn, n'ont pas besoin de lire les textes originaux des scientifiques qui les ont précédés. Des manuels, dit Kuhn, peuvent, je le cite, se substituer systématiquement à la littérature scientifique créatrice dont ils dérivent. C'est page 225-226. Pour que ça soit clair, je peux simplifier en disant que dans les études d'art, selon Kuhn, il n'y a pas de manuel. Il faut aller aux sources, aux textes, aux discours et sans doute aux propositions artistiques originales. Il faut y revenir sans cesse. Dans les sciences, les manuels suffisent. Alors j'ai pris une autre citation de Kuhn qui peut-être précise un tout petit peu ce point. On peut lire aussi ceci, Kuhn écrit, pourquoi l'étudiant en physique devrait-il lire les œuvres de Newton, Faraday, Einstein ou Schrödinger, alors que tout ce qu'il doit savoir sur ces travaux est récapitulé sous forme beaucoup plus courte, plus précise et plus systématique dans un certain nombre de manuels modernes. Pardon. Pas la peine d'aller au texte des grands scientifiques et des grandes sources, les manuels, encore une fois, suffisent. S'il en est ainsi, c'est parce que les scientifiques peuvent, je cite encore une fois, avoir confiance en leur paradigme. Si les manuels suffisent pour l'apprentissage des sciences, c'est parce que, en science, les scientifiques peuvent avoir confiance en leur paradigme. Sous-entendu, ceux qui ne sont pas des scientifiques, les artistes, ne peuvent pas avoir confiance en leur paradigme. D'ailleurs, au fond, il n'y en a pas. Ou, puisque Kuhn lui-même a proposé dans sa postface de 69 de traduire sa notion de paradigme par celle de matrice disciplinaire, il en est ainsi parce qu'il n'est de science que sûr de sa matrice. Cette matrice, autrement dit, fait indiscutablement ordre et référence dans le milieu professionnel scientifique. En ce sens, elle discipline ce milieu sans conteste. Ce n'est pas, je dois le préciser, que les sciences ressassent interminablement et de manière répétitive leur histoire, ni que leurs propositions soient pour toujours stabilisées. Au contraire, comme le dit d'ailleurs éloquemment le titre même du livre de Kuhn, il y a bien des révolutions scientifiques, donc les sciences ne se répètent pas, même si elles sont sûres de leur histoire. Mais c'est que, même si par exemple la physique contemporaine n'est plus galiléenne, ni newtonienne, ni même exactement einsteinienne, cependant, chacun des noms que je viens d'évoquer, Galilée, Newton, Einstein, est inscriptible dans le cadre d'une tradition définie. Ce sont deux expressions de Kuhn. Hein. Les grands scientifiques du passé sont toujours inscriptibles dans le cadre d'une tradition définie. Donc, par différence, s'il doit y avoir une différence entre art et science, alors il y a tradition définie en science, il n'y en a pas en art. Tradition définie. Où chacun des noms, donc, des grands scientifiques, dans cette tradition définie, demeure comme ayant participé à la expression encore de Kuhn, la résolution d'une énigme. Je crois que Jérémy a fait allusion tout à l'heure à cette expression de Kuhn. Chaque scientifique, autrement dit du passé, a participé à la résolution d'une énigme, et c'est ce qui permet qu'existe en science une tradition définie. Vous faites de vous-même désormais, je ne vais pas répéter à chaque fois, par différence, en art, ça ne serait pas le cas. Il n'y a pas de tradition définie et il n'y a pas de résolution d'énigme. Et par conséquent, parce qu'il n'y a pas de résolution d'énigme, il n'y a pas non plus de tradition définie. Je doute, et ça sera ici mon sujet, que ces deux dernières caractéristiques, une tradition définie et la capacité à résoudre une énigme, appartiennent au design. Alors peut-être, y en aura-t-il parmi vous qui contestent cette position, mais c'est la mienne, en tout cas, pour construire le raisonnement que je vous propose. Je doute que il existe en design une tradition définie et une capacité à résoudre, à quelque moment que ce soit, une énigme. Je pourrais dire autrement, au fond, je fais l'hypothèse que le design est toujours énigmatique. Cela ne veut pourtant pas dire que je souhaite renvoyer l'enseignement du design à l'influence de maîtres habiles à choisir la méthode qui, au fond, arbitrairement et subjectivement, leur paraîtrait la meilleure. Non, je crois qu'une certaine rigueur est ici possible, rigueur que nous parviendrons à caractériser en partant de la double hypothèse que je vais vous dire. S'il n'y a pas de tradition définie ni d'énigme résolue, c'est peut-être parce qu'elle a en jeu sinon d'innombrables, au moins plusieurs, au moins deux traditions et énigmes, et que les énigmes, et première hypothèse, et deuxième hypothèse, que les énigmes en question ne sont à aucun moment résolues. Je pense qu'il faut faire, je peux répéter si vous voulez pour que ça soit clair, il semble qu'il faut faire, concernant le design, cette double hypothèse, s'il n'y a pas de tradition définie ni d'énigmes résolues, c'est peut-être parce qu'elle a en jeu, alors je vais bien revenir sur ce point, sinon d'innombrables, au moins plusieurs, au moins deux traditions ou énigmes qui concernent le design et que les énigmes en question ne sont à aucun moment résolues. Il n'y a pas, je vais y revenir, de solution en design, il n'y a que des propositions faites à ce titre. Je voudrais vous donner à penser que sous cette double hypothèse, la responsabilité première en situation d'apprentissage n'est pas de fournir des paradigmes ni d'emmagasiner des exemples, mais de justifier ce que j'appellerais des cas. Alors, je m'arrête une toute petite seconde dans la lecture de mon texte, parce que c'est là qu'est pour moi l'enjeu conceptuel. Et donc, je vais vous demander un tout petit peu d'attention logique. Je vais essayer de proposer une distinction entre ces trois notions. Ils sont des mots qui peuvent, dans la langue usuelle, à peu près se recouvrir, mais conceptuellement, je pense qu'il faut les distinguer. Paradigme, exemple ou cas. Et donc, si vous voulez que je tue le suspense, je vais dire que je conclurai qu'il y a des cas de design, mais pas d'exemple ni de paradigme. Et que c'est ça le problème. Voilà, nous n'avons affaire, d'ailleurs, ça a été évoqué ce matin. Le mot cas est revenu dans les deux exposés de ce matin, si j'ai bien écouté. Voilà. Et donc, il faut préciser ce que c'est qu'un cas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les notions d'exemple et de paradigme renvoient à celles de tradition. La première notion, exemple, dans l'histoire, si vous voulez, de ces notions, paradigme, exemple, etc., la notion d'exemple implique, aura impliqué la possibilité d'imiter. Le statut des exemples, depuis Quintilien, si vous voulez, jusqu'à nous, le statut de l'exemple, quand il s'agit de traiter de questions pédagogiques, c'est que c'est imitable. Un exemple est proposé afin d'être imité. Quintilien et la tradition rhétorique ne cessent de faire usage de l'exemple ou d'exemple à cette fin, et en revanche, ou distinctement peut-être plutôt, le paradigme, la notion de paradigme renvoie à la possibilité de transposer ou de traduire. Donc la distinction que je fais, c'est là le moment un peu difficile de mon exposé sur le plan logique. Les exemples, c'est fait pour, si j'ose dire, imiter, c'est donné pour imitation. Les paradigmes, c'est donné pour transposition ou traduction. Ce ne sont pas les mêmes thèses qui sont formulées de Galilée au physicien post-einsteinien, mais c'est la même rationalité qui opère, de sorte que vous pouvez, en science post-newtonienne, en physique post-newtonienne, vous pouvez transposer le paradigme galiléen, et ainsi de suite. Voilà. Le design, lui, me semble être fait de cas qui ne sont donc ni imitables ni transposables, mais à chaque fois singuliers. En ce sens, le design est toujours problématique. La question ne manque jamais de se poser, de savoir en quoi et pour quelles raisons une opération peut être justifiée au nom du design. Pour reprendre l'une des expressions de Kuhn que je viens d'ailleurs de citer, le design est, me semble être en tout cas, comme l'art depuis les modernes, dont il est d'ailleurs contemporain, fait de solutions incommensurables les unes aux autres. C'est ça le problème. L'incommensurable, ça c'est du design, dirait-on, ça aussi c'est du design. Et les deux cas ne sont pas commensurables. Pas exemple, pas paradigme. Ils ne sont pas commensurables. Ils sont singuliers, ils sont à chaque fois singuliers. Donc, il me semble que le design est fait de solutions incommensurables les unes aux autres et qui partant ne sont jamais exactement des solutions. Cela veut dire que la question de savoir si tel ou tel cas est bien un cas de design est toujours une question au moins relativement ouverte. Mais cela veut dire aussi, au fond, je reviens au mot de Kuhn, qu'il n'y a pas réellement en design de solution, du moins pas de solution qui puisse être reproduite ou transposée. Et s'il n'y a pas de solution, c'est parce que la voie, la méthode, pour parvenir à la proposition ou au résultat qui pourrait être dit design, cette voie, cette méthode n'est jamais sûre. De sorte qu'il n'y a pas, littéralement parlant, selon moi, de méthodologie du design. On peut décrire la méthode suivie par tel ou tel dans tel ou tel cas, mais en faire une méthodologie, ça serait mon désaccord radical avec la revue Sciences du Design qui a été évoquée ce matin. Il n'y a pas de méthodologie pour moi dans ce qui se sera appelé pour nous design. Pareille situation serait désespérante et encore une fois ouvrirait à l'arbitraire des maîtres si nous ne voyions pas que l'incertitude qui pèse sur la méthode et par conséquent sur l'aboutissement du chemin ne signifie pas l'absence de tout principe. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de méthodologie qu'il n'y a pas de principe. Si je juge que tel ou tel cas est bien un cas de design, soit je suis en train de faire jouer mon autorité et de prendre une sorte de pouvoir sur l'institution du mot design, soit si je ne suis pas autoritaire, je me charge de faire valoir dans et pour ce cas une idée qui n'est pas mienne, car si elle était seulement mienne, alors je retomberais dans la situation de pouvoir et de maîtrise que je cherche précisément à éviter. C'est le cœur de mon argumentation. Si je ne suis pas un maître autoritaire et que je dis à des étudiants ça, c'est un cas de design, je ne peux le dire que parce que je m'appuie sur une idée qui n'est pas mienne et que je vais devoir par conséquent expliciter. Je vais essayer de vous dire à quoi je pense plus précisément et de quelle manière. Dans l'hypothèse où je me situe, je ne suis pas un maître autoritaire et donc je vais devoir justifier que le cas que je juge être tel est bien fondé à être jugé, pas par moi, voilà, mais par une démarche qui a des principes. Dans cette hypothèse, mon travail, ma responsabilité, c'est d'aller chercher cette idée qui n'est pas mienne et qui donc a été professée par un autre que moi. Pour juger des cas de design, il me faut, il nous faut, non pas une histoire du design, mais une histoire des idées auxquelles le design a pu correspondre. Alors ça, c'est une grande proposition que j'aimerais faire à mes amis historiens et historiennes du design. Je pourrais dire c'est une critique que je suis en train de faire de la notion même d'histoire. D'ailleurs, d'histoire de l'art, ça tomberait pour moi sous la même observation critique. C'est que je ne crois pas qu'on puisse faire une histoire du design qui ne soit pas autoritaire, au fond, peu ou prou, sans que cette histoire repose sur une histoire de l'idée de design. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc j'appelle de mes voeux, moi je suis maintenant émérite, hein, c'est-à-dire je n'enseigne plus, mais j'appelle ceux qui sont encore en activité à travailler dans ce sens. Pas faire une histoire du design, ça, on n'en manque pas, mais faire une histoire des idées de design, et ça, je pense que ça manque encore. Or, ces idées de design, si elles sont bien plusieurs, il y en a bien plusieurs, s'il en est au moins deux, sinon tout ce qui me fait parler ici de cas n'aurait pas de raison d'être dit. Si donc ces idées de design sont plusieurs, au moins deux, cependant, elles ne sont pas innombrables. Elles ne sont, c'est un fait, que tournure autour de quelques principes dont la combinatoire n'est pas infinie. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire une histoire de l'idée de design, c'est qu'on ne va pas s'engager pour reprendre la discussion d'avant la pause sur est-ce qu'on en tient pour les sciences ou pas? Ouais. C'est qu'il peut y avoir une rigueur dans l'affaire qui n'est pas liée justement à l'arbitraire infini auquel on serait livré si on n'était pas scientifique. Il y a peut-être des tournures autour de quelques principes dont la combinatoire n'est pas infinie et l'histoire de l'idée de design et par conséquent l'histoire du design tourne autour de ces quelques tournures qui ne sont pas innombrables. À la différence des scientifiques qui ne jugent pas différemment les uns des autres le passé de leur discipline, ce qui permet à Kuhn de parler les concernant, j'insiste encore sur ce point, d'une tradition définie. Donc, à la différence des scientifiques qui ne jugent pas différemment les uns des autres le passé de leur discipline, les designers ne considèrent pas tous de la même façon la signification historique du mot qu'ils revendiquent pourtant pour nommer leur activité. Ainsi, les designers ne professent-ils pas le mot de design de manière univoque? Pour autant, les possibilités de variation, je le répète, ne sont pas infinies et le mot n'est pas condamné au performatif. Sa profération, par extension sa déclaration comme profession, n'auront cessé au moins jusqu'à présent de renvoyer aux traits plus traditionnellement réservés au métier, lesquels supposent la mise en œuvre de compétences non subjectives, dont il faut bien qu'il soit fait témoignage à un moment ou à un autre. Alors, là aussi, je m'interromps par rapport à la lecture de mon propos. Bon, je viens de faire jouer une distinction entre profession et métier. Professer, littéralement, c'est l'étymologie du mot, ça veut dire déclarer publiquement. Alors, on peut imaginer une situation, d'ailleurs, une partie de l'histoire de l'art contemporain est prise dans cette situation, je dirais, depuis Duchamp, depuis le ready-made de Duchamp, le fait de proférer, donc de professer la phrase « ceci est de l'art ». Hein, si vous arrivez à faire circuler la phrase « ceci est de l'art », alors ce dont vous parlez en est, puisque la phrase entoure déjà d'avance la chose, quelle qu'elle soit, y compris même si l'artiste ne l'a pas fait lui-même. L'urinoir, ce n'est pas Marcel Duchamp qui l'a fait, il l'a emprunté, j'ai tout fait, ready-made. Simplement, il ajoute la phrase, ceci est de l'art, il la déclare, il la professe, et ça suffit pour que la chose soit ce qu'on dit qu'elle est. Ça, c'est le performatif. On pourrait imaginer que c'est la même chose pour le design. Serait design ce que des gens assez puissants pour faire valoir leur phrase disent que c'est. Je vous dis que c'est du design, donc c'en est, puisque j'ai capacité à professer cette phrase. Alors, je crois que le design, même si on utilise beaucoup à son sujet le mot de profession, en fait, et c'est pour ça que la combinatoire, quant à sa définition, n'est pas infinie, le design aura au moins jusqu'à présent tenu à quelque chose qui n'est pas historiquement de l'ordre du professionnel, qui n'est pas de l'ordre de la profession, mais de l'ordre du métier. Et un métier, depuis la nuit des temps, ça a des règles. Voilà. Ce n'est pas n'importe quoi un métier, il y a des principes et il y a des compétences. Voilà. Donc je pense que si nous pouvons ne pas être arbitraires dans l'enseignement du design, c'est parce que, en fait, même si ce mot n'est plus en vogue, le design tient encore à quelque chose qui s'est appelé métier, et au fond, il y tient peut-être plus qu'à celui de profession. Donc je reprends la lecture de mon propos. Je suppose que je me suis quand même un tout petit peu expliqué sur la distinction donc, que j'ai fait jouer dans mon propos jusqu'à présent entre profession et métier. Il me paraît, bon, je ne vais pas approfondir sur ce point, peut-être vous souhaiterez que je sois plus clair dans la discussion tout à l'heure, vous me direz. Il me semble plus immédiatement utile de souligner que si l'on adopte la position de responsabilité dont j'essaye de vous parler, alors ce qui est cas peut devenir, sinon exemple, du moins paradigme. C'est-à-dire, si vous adoptez la position que je propose, il n'est pas impossible que vous puissiez traiter comme paradigme quelque chose qui, au départ, n'est au fond qu'un cas. Et que vous puissiez, à ce moment-là, ouvrir à une question de transposition. Alors, je vais prendre un cas, justement. Soit donc un cas, celui des poteaux cruciformes dont Mies van der Rohe a nourri son pavillon pour l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Pourquoi des poteaux cruciformes? Pourquoi cruciformes? Est-ce qu'il s'agit là d'un cas de design? Je ne parle pas de l'ensemble du pavillon, je parle des poteaux cruciformes dans le pavillon. Est-ce que c'est un cas de design? Comment régler cette question? Alors, réponse, alors c'est une proposition, c'est la proposition que je vous fais ce matin. Réponse, en lisant un ouvrage, par exemple, « Le design pour la vie » de Moholy-Nagy, publié en 1947, dont le titre même fait assez supposer qu'il implique une définition du terme. Je vais juger, est-ce que c'est un cas de design, les poteaux cruciformes de Mies van der Rohe dans le pavillon, en m'appuyant sur un texte dont je suis sûr qu'il dit quelque chose quant au sens du mot design. Ce n'est pas moi qui vais juger, enfin si, c'est moi qui vais juger, mais je vais juger en m'appuyant sur un texte dont je ne suis pas le maître arbitraire. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans le texte de Moholy? Cette phrase ou ce passage, notamment, je cite, la pratique montre qu'un designer est toujours placé au départ, c'est pas moi qui le dis, le toujours, c'est dans le texte. Donc, ça, c'est objectif. Il est bien écrit ça. Il est écrit par quelqu'un qui a revendiqué le mot design, le design pour la vie, et il a écrit « La pratique montre qu'un designer est toujours placé au départ devant un certain nombre de possibilités ayant chacune une plus ou moins grande qualité objective. Pour réaliser une structure, par exemple, on a le choix entre divers matériaux, mais aussi, une fois ce matériau choisi, entre diverses manières de l'utiliser. Si, dans la construction d'un immeuble, une colonne en béton armé est aussi satisfaisante structurellement, qu'elle soit de section hexagonale, pentagonale ou carrée, laquelle faudra-t-il choisir? Donc, pour Mohly, le design, c'est le fait de choisir dès lors qu'il y a plusieurs solutions structurelles possibles. Et c'est toujours le cas, dit-il. Alors, certes, les poteaux de Miss Van der Rohe ne sont pas en béton. Le texte de Mohly parle de colonnes en béton armées structurellement satisfaisantes, qu'elles soient de section hexagonale, pentagonale ou carrée, etc. Mais au fond, on est dans la même sorte de cas. Donc, les poteaux de Miss Van der Rohe ne sont pas en béton, mais il est clair que le propos de Mohly s'applique à leur cas, et même deux fois, il s'y applique, je crois même deux fois. D'une part, en ce qui concerne précisément le choix du matériau, Miss Van der Rohe a choisi de ne pas faire des poteaux en béton, mais en structure métallique. D'autre part, en ce qui concerne la section, hein, pas cylindrique, etc., mais cruciforme. Là est l'idée qui m'autorise à dire, en effet, cas de design, la situation que j'examine. Il y va d'un choix entre plusieurs possibilités que le propos de Mohly, que le propos de Mohly m'autorise à juger comme un fait toujours de design. Suivant ce propos, il y a design dès lors qu'il n'y a pas de solution structurelle inévitable. Par extension, il peut être soutenu, me semble-t-il, que les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design. Je suis pas loin de ma conclusion. Je vais vous proposer de réfléchir un peu autour de ça. Suivant le propos de Mohly, donc il y a une certaine objectivité dans ma démarche. Je ne suis pas un maître autoritaire. Je m'appuie sur une autorité qui n'est pas mienne, que je ne possède pas en mon nom. Il y a design dès lors qu'il n'y a pas de solution structurelle inévitable. Et je vous laisse méditer sur cette proposition de définition du design. Il y a design dès lors qu'il n'y a pas de solution structurelle inévitable. Hein, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution structurelle inévitable. Par extension, c'est là que je vais essayer de réfléchir encore un petit peu avec vous, je crois qu'on peut soutenir, parce que c'est juste logique, que les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design. Que s'il y a quelque chose pourquoi le design est spécifique, ça n'est pas pour penser la structure des choses. Il ne vous échappera pas, et je crois qu'il n'échappera à personne, que pareille proposition n'est pas celle de tous ceux qui ont revendiqué l'appellation design. Il en est, autour de nous, pour dire plus négligeable que spécifique, le cas que je viens d'impliquer dans mon raisonnement. Mais ceux-là ne pourront à leur tour non pas imposer, mais bel et bien justifier leur jugement qu'en s'opposant aussi explicitement et argumentativement que possible à l'idée soutenue par Mohly. C'est-à-dire pour dire, ouais, votre histoire de poteau cruciforme, c'est pas très intéressant, ça n'intéresse pas le design, c'est un détail, etc. Pour dire, ça n'intéresse pas le design, c'est un détail, ceux qui disent ça doivent exciper eux-mêmes une définition de design qui consistera à contester la phrase que je vous ai dite il y a quelques secondes, à savoir les questions structurelles, les solutions, il n'y a pas de solution structurelle inévitable, etc. Or, dans cette opposition même, dans l'opposition qu'on pourrait adopter à l'encontre du propos de Mohly, tout n'est pas soutenable, du moins. Tout n'est pas soutenable si, refusant l'arbitraire et l'autoritarisme, on s'en tient à un point de vue logique. Car la phrase disant que les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design, pardon, je lis mal, car à la phrase disant que les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design, il n'est possible, en logique, d'en opposer que deux autres. Et c'est ce qui fait que il n'y a pas de tournure infinie autour de quelques principes. Vous avez une position avérée quant au design, je vous l'ai lu, celle de Mohly, et cette position, vous ne pouvez la nier au fond, ou la faire varier au fond, que de deux manières, pas plus. De sorte qu'il y aura bien une rigueur quand même dans le choix des cas de design. Ça sera à choisir entre trois hypothèses, trois idées. Donc, la phrase disant que les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design, à cette phrase-là, il n'est possible d'opposer logiquement que deux autres phrases. L'une, ce sera que ces questions sont aussi affaires de design. Donc, on peut dire, les questions structurelles ne sont pas l'affaire spécifique du design. On peut comprendre, ah ben, ça veut dire que ces questions sont aussi l'affaire du design. Pas spécifiquement du design, mais quand même de lui. Autrement dit, le designer s'en mêle. Il doit aussi, non pas seulement choisir, mais chercher avec l'ingénieur, par exemple, des solutions structurelles, hein, autre position. Et l'autre façon de nier la phrase autour de laquelle je réfléchis, c'est de dire que les solutions structurelles sont spécifiquement de la responsabilité du design. Autrement dit, la définition la plus extensive et la plus compréhensive de la notion de structure, ce serait dans la pensée du design qu'on la trouve. Donc, je crois qu'il y a ces trois positions quant au design, hein. L'une qui dit que le design consiste à choisir parmi les solutions structurelles. L'autre qui consiste à dire qu'il doit se mêler de la recherche de ces solutions avec l'ingénieur. Et la troisième qui consiste à dire que c'est sa responsabilité spécifique. Autrement dit, que le designer est meilleur que l'ingénieur dès lors qu'il s'agit de trouver des solutions structurelles. Bon, j'espère que je suis à peu près clair. Je suis pas sûr que ça soit simple à l'heure où on pourrait prendre l'apéritif aussi bien. Enfin, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le hasard des horaires de communication. Donc j'espère que ça va quand même à peu près ce que je vous ai dit du point de vue de l'entente. Alors, pour conclure rapidement, je ne vais pas débattre de la question de savoir laquelle de ces trois positions, assurément non équivalentes, vaut mieux tant pour les designers que pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je me suis exprimé ailleurs sur cette question. Je ne pense pas que l'idée d'un design aux compétences étendues soit la meilleure idée que nous puissions avoir, justement parce que dans ce cas-là, se dilue la possibilité pour le design de disposer d'une utilité spécifique. Je veux dire d'une utilité qui n'est-elle utile que d'être spécifique. Donc, dans les trois positions, je serais assez pour, vous l'avez forcément entendu, dire, moi, personnellement, je soutiendrais plutôt la position de Mouly. Voilà. Mais on peut discuter, encore une fois, ma position, si vous voulez, je sais pas comment dire ça, pour soutenir l'idée de design, je pense que nous aurions intérêt à ne pas laisser cette idée s'étendre, c'est-à-dire assumer des responsabilités trop étendues, finalement. À la spécificité possible du design, le texte de Mouly permet de penser, me semble-t-il, lui qui évoque implicitement, là où je l'ai cité en tout cas, la notion de forme. Cette notion, et avec elle l'idée de mettre des formes au monde, se perd ou se perdrait s'il ne devait plus être question en design que de structure, c'est-à-dire s'il ne devait plus être question que de systématiser le registre des structures en l'appropriant à une discipline souveraine. Justement, ce que laisse entendre le propos de Mouly, c'est qu'il n'y a pas de solution structurelle systématique s'il y a design. S'il y a design, il n'y a pas de solution structurelle systématique. C'est ce que je parviens à penser en suivant l'idée de design que j'ai lue chez Mouly. Et à partir de là, il me semble que je peux juger des cas éventuels de design. Et peut-être même, au-delà de ça, soutenir comme utile pour nous cette idée parmi les trois possibles. Voilà. Ce que laisse entendre le propos de Mouly, c'est qu'il n'y a pas de solution structurelle systématique s'il y a design. Alors, sa conséquence, c'est que bah, il n'y a pas d'exemple qui ne soit au fond discutable. Il y a quand même des cas sur lesquels, en fonction d'une référence à cette idée, par exemple, que je vous propose, vous pouvez dire oui, ça, c'est bien un cas de design. Voilà, juste une phrase pour terminer. Reste, quoi qu'il en soit de tout ce que je viens de dire, reste que j'espère avoir montré quand même un peu qu'on pouvait produire un enseignement non arbitraire du design.
On a laissé courir la communication un peu plus longtemps que prévu, mais bon, voilà, quand vous, la discussion allait prendre suite directement derrière, ça permet aussi d'entendre les discussions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tu es trop.
Je me demandais, en fait, si en remettant l'autorité des
Alors,
idées.
j'ai du mal à vous entendre.
Ah, pardon. Si, on entend, mais peut-être un peu plus fort. Bien, un peu plus fort, oui, dans le micro. Je me demandais, si, en fait, par rapport à l'importance de faire appel à des idées extérieures, donc des idées qui sont préexistantes dans le champ du design. Pour justifier des cas qu'on prend pour enseigner le design, est-ce que ça remet pas en fait la question de l'autorité, de la responsabilité sur quelqu'un d'autre et donc sur une figure plus ou moins admise dans l'histoire?
Alors, je crois que votre objection serait justifiée si c'était, comme vous dites, une idée extérieure. Mais alors si je prends un livre qui s'intitule Le design pour la vie, alors si en plus je regarde quel a été le parcours de celui qui a écrit le livre Le design pour la vie, je pense que je peux dire que j'ai affaire à un texte qui n'est pas extérieur. Et par conséquent, votre objection tombe et mon discours, en revanche, tient.
Je crois que c'est pas le même sens d'extérieur qu'on veut dire. J'en sous-entendais juste extérieur par extérieur à soi,
Extérieur, hein?
à soi-même. C'est-à-dire que juste en fait par extérieur, je voulais dire une idée qui avec laquelle on peut être d'accord, mais dont on n'est pas l'origine.
Mais si vous refusez l'extérieur à soi-même, il me semble que vous êtes dans l'arbitraire. En tout cas, vous autorisez la position autoritaire que pourquoi pas. Mais moi, je m'efforce de penser autrement la relation pédagogique. C'est-à-dire, si vous ne vous appuyez que sur ce que vous pouvez produire vous-même. Vous vous autorisez l'autoritarisme. Alors pourquoi pas?
Non.
Mais c'est ce que je conteste à la base.
Oui, mais est-ce que si c'est pas déjà une idée qui origine d'un autre individu, est-ce que si on n'a pas en fait l'ensemble des ressources effectivement de cette personne, etc., donc l'histoire de sa propre idée, est-ce que ça reste pas arbitraire?
Est-ce que ça reste pas?
Arbitraire, parce que bah, lui-même, c'est un individu, donc forcément, il va avoir un point de vue qu'on peut aussi considérer comme arbitraire.
Mais si vous dites, tout ce qui est pensé par un autre que moi, je suis fondé à le rejeter, sous l'argument que c'est extérieur à moi, alors à ce moment-là, même les sciences sont impossibles.
C'est pas
Puisque
forcément le.
le principe de la démarche scientifique, c'est précisément qu'il y ait un accord sur les manières de raisonner entre diverses personnes et même au-delà même des spécialistes. Voilà. Donc à ce moment-là, je pense que vous dissolvez toute possibilité qu'il y ait une entente entre les humains, sur quoi que ce soit.
Merci beaucoup pour cette présentation et merci surtout d'avoir remis le terme métier au centre du discours. J'ai une question, c'est dans la logique que vous développez, donc finalement de choisir un existant, enfin choisir quelque chose dans un existant, où situez-vous, et par rapport à Molinari aussi, où situez-vous la place de l'invention, voire de l'innovation dans le métier du design? Parce que finalement, si j'ai bien compris les propos, vous parlez de faire varier, mais c'est une variation à partir déjà d'un choix prédéterminé. Et finalement, du coup, ça me pose question par rapport à l'idée de lignée ou finalement ce qui est dit au départ à partir des idées de Kuhn de référence au passé. Donc, du coup, je me demande où vous place situer l'invention et l'innovation pour faire court, c'est-à-dire ce qu'appelle finalement peut-être des révolutions.
Alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que d'abord, je distingue radicalement, enfin, autant que je peux, ces deux notions, invention et innovation, qui pour moi ne sont pas du même registre. J'en ai fait tout un chapitre du livre qui a été évoqué, Poussée technique conduite de découverte. Donc, je suis très critique pour aller vite à l'égard ou à l'encontre de la notion d'innovation qui est une façon de planquer le neuf. Ce que veut dire littéralement le mot, hein. Innover, c'est mettre du neuf, mais in dedans. Et c'est pas toujours si neuf que ça. Les innovations, en réalité, même si vous allez à la définition juridique du brevet, enfin qui est supposé garantir l'innovation, il est bien clair dans la définition juridique, hein, du brevet que les fins sont pas nouvelles. Il y a innovation à partir du moment où il y a une manière d'atteindre une fin qui, elle, peut être nouvelle, mais pas la fin. Donc, c'est pas tout neuf. Bon, bref. Et l'invention, c'est autre chose pour moi. Donc, ça impliquerait effectivement des ruptures. Alors, on peut se dire, il faut voir, est-ce qu'il y a des inventions scientifiques? Est-ce qu'il y a des inventions techniques? Donc, il faut lire, là encore, un certain nombre de gens qui se sont posés ce genre de questions. Il y a des ruptures en sciences. Qu'on lise Bachelard ou qu'on lise Kuhn, on va trouver cette idée. Il y a aussi sûrement des ruptures techniques. À un moment donné, les systèmes techniques basculent. Il faut lire Simondon, etc. Bon, il y a des inventions, très bien. Et c'est comme ça que l'humanité n'est pas toujours en train de vivre dans des cavernes, pour dire les choses vite. Hein. Nous sommes des êtres inventifs, etc. Très bien. Mais pour répondre rapidement à votre remarque ou à votre question, je crois que voilà, je vais dire ça. Les designers ne sont ni des innovateurs ni des inventeurs. Ma position développée consisterait à dire ça. Je dis souvent que le design est second, mais pas secondaire. Et que faut justement, c'est ça qu'il faut apprendre à penser, que quelque chose qui ne peut avoir lieu qu'en second n'est pas nécessairement secondaire. Par exemple, rectifier, quelque chose qui n'était pas bien fait. Le rectifier, c'est bien, mais ce n'est pas secondaire, mais c'est second, par définition. Donc, je suis sur cette position qu'en fait, le design se soutient mieux ou se soutiendrait mieux si les designers pouvaient se persuader qu'ils ne sont pas des innovateurs ni des inventeurs. Ils héritent d'inventions qui sont généralement dans l'ordre du structurel. Et avec ça, comme disait Frank Lloyd Wright, ils essayent de faire mieux.
Bonjour. Merci pour la présentation. Ça a été assez digérable, l'information. Et bon, ma question, c'est juste un peu pour, si j'ai bien compris la méthode, ça a été se baser sur un texte existant d'une personne qui a une certaine, une certaine hiérarchie pour dire ce qu'il dit. Et c'est sur cette base qu'on peut défendre votre propos. Ma question est si on pouvait se baser pas sur un auteur ou une personne, mais sur quelque chose qui va au-delà peut-être de l'être humain en tant que tel, comme la nature ou la planète, ou cette vie justement qui est comprise de design et de structure. Est-ce qu'on pourrait aussi défendre un propos comme quoi Peut-être le design, il serait très impliqué dans la structure aussi.
Je sais pas si j'ai bien compris. Si je m'arrête juste à la toute fin de ce que vous venez de dire, si vous dites le design est impliqué dans la structure aussi, vous êtes sur l'une des trois positions dont j'ai essayé de dire qu'elles sont pas un nombre infini. Hein. Oui, voilà, on peut soutenir cette position. On peut soutenir cette position que le design est impliqué dans la réflexion structurelle aussi.
Mais est-ce que...
Attendez, je pense simplement que le travail d'étude qui serait à faire pour fonder cette position, c'est de la légitimer, la justifier en trouvant une autorité qui dit ça et qui n'est pas vous, qui n'est pas moi qui parle. Alors, ça va rentrer dans des questions compliquées. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité? Qu'est-ce qui fait qu'un texte fait autorité, etc. On pourrait, par exemple, avoir une réponse assez, je sais pas comment dire, assez simple, consiste à dire, je fais beaucoup d'étymologie, hein, je pense beaucoup avec l'histoire des mots. Bon, auteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est resté dans les mémoires, par exemple. Donc, la position que vous soutenez, fondez-la, vous pouvez, elle fait partie des positions logiquement possibles, mais fondez-la en cherchant un auteur, quelqu'un qui est resté dans la mémoire, qui vous donnerait un appui. En fait, le problème qu'on a, c'est que, heureusement, on ne peut pas éviter de parler. Et donc, si je dis ça, c'est un cas de design, forcément, je parle, je dis, je fais une phrase. Ça, c'est un cas de design. Et qu'est-ce qui autorise cette phrase? Voilà. Donc, je pense que le mieux que nous ayons à faire, c'est de trouver un auteur qui soit resté dans les mémoires, qui autorise cette phrase. Et
Oui.
de toute façon, pour le cas de la nature que vous évoquiez, comme le faisait remarquer Bruno Latour, je suis pas latourien, mais pour le cas, je le serais. La nature, il y a bien quelqu'un qui l'a fait parler. Il y a bien quelqu'un parmi les humains qui dit la nature c'est ça. Mais cette phrase-là, la nature c'est quoi que vous mettiez derrière, hein, un endroit protecteur ou au contraire un endroit hostile, quelque définition que vous donniez de nature que ce soit, il faut la fonder. Et je ne vois pas d'autre solution que de l'autoriser. Et l'autoriser, c'est chercher un auteur, etc.
Oui, justement, ma question reposait sur la question justement que est-ce que ça serait en dehors sans valoriser beaucoup la fonction de l'auteur qui traduit, comme vous dites, la nature, est-ce que ce n'est pas assez la nature en elle-même? Est-ce que c'est pas est-ce que la nature n'est pas une évidence assez soit elle saboter sa structure ou sa cohérence à long terme, sa soutenabilité, est-ce qu'elle n'est pas assez puissante, forte ou autoritaire justement pour se baser sur cette observation, cette contemplation de la nature pour baser mon point de vue?
Vous êtes un peu comme votre camarade tout à l'heure, c'est-à-dire vous posez une question sous forme interro-négative. Est-ce que la nature, ça n'est pas, etc. Alors, vous savez que l'effet de ce genre de phrase sur la personne à qui vous l'adressez, c'est de la coincer. Donc, je ne peux que vous dire pourquoi pas. Voilà. Si vous voulez penser comme ça, comment pourrais-je vous en empêcher? Je ne peux pas. Évidemment pas. Je peux juste vous dire que moi, premièrement, j'essaye de ne pas penser comme ça. Et deuxièmement, si vous permettez, je vous suggère à vous de ne pas penser comme ça. Parce que si vous êtes dans la position que je comprends en vous écoutant, je dirais que vous niez ipso facto toute une histoire de l'humanité. Si la nature était évidente, comme vous dites, on en serait resté à Galilée, par exemple. Parce qu'il y a un propos sur la nature chez Galilée. Il y a une phrase, je l'ai en tête, si vous voulez, de Galilée là-dessus. Et quand on passe à Newton, quand on passe aux Einsteiniens, etc., c'est précisément sur la conception de ce mot nature qu'il y a débat. Si vous êtes sur la position que vous dites, alors tout Bruno Latour est inutile. Descola aussi, pour parler de gens dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas descolien, je ne suis pas latourien, mais quand même, je néglige pas qu'ils m'ont montré, ils ont montré pour moi que ce mot était un mot problématique et qu'il n'y a pas d'évidence de la nature. Voilà. Alors je pense qu'il y a quelque chose, j'ai entendu dans votre question tout à l'heure un mot que j'ai noté, et qui était peut-être aussi dans la position de votre camarade qui parlait un peu plus tôt, c'est celui de hiérarchie. Parce que je citerai un auteur, j'adopterai une position hiérarchique. J'essaye de vous faire comprendre le contraire, que c'est parce que j'explicite qu'il y a des sources à ma pensée, que je peux me dégager d'une position hiérarchique par rapport à vous auquel je m'adresse. Je vous mets carte sur table. Si je me réfère à Moholy, alors je peux dire les poteaux cruciformes de Miss Van Der Rohe, c'est un cas de design. Je n'impose rien quand je dis ça. Parce que si je me réfère à une autre définition que Moholy, je peux peut-être en juger autrement. Voilà. La réflexion est ouverte.
Merci beaucoup.
Je pense qu'effectivement, tu touches du doigt ce qui suscite les questions. C'est-à-dire que bon, tu as choisi Moholy, et la question c'est, on aurait pu en choisir un autre. C'est-à-dire, et auquel cas, les critères qui nous permettent de dire ça c'est design, ça c'est un cas de design, les critères en auraient été changés. Donc je pense qu'en fait, ce qui pourrait, ce qui, si on avait le temps, ce qui serait effectivement intéressant prolonger la discussion, c'est que tu nous dises, au fond, ce qui fait que tu as choisi Moholy plutôt que quelqu'un d'autre. Parce qu'on comprend bien quelle est la démarche. Néanmoins, peut-être que, faute d'avoir explicité ce pourquoi tu as choisi Moholy plutôt que quelqu'un d'autre, c'est là que l'arbitraire revient. Et que donc, du coup...
Non.
Eh oui, mais je sais bien. Non. Mais c'est là que, du coup, on peut te dire, mais tu retombes finalement sur le dominus et tu quittes le magistère, c'est-à-dire que tu retombes au fond dans le caractère dominateur que tu as voulu éviter. Alors je ne t'accuse pas du tout de vouloir être dominateur, c'est que simplement je pense que ce qui est important, c'est de dire quels sont les critères qui te permettent de choisir, je dirais à dessein, de te référer à Moholy plutôt que de te référer à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas simplement parce que, effectivement, tu as raison. Si on veut choisir d'autres critères, autant les fonder, c'est-à-dire se trouver une autre position d'autorité. Ça, c'est sûr. Mais ça n'enlève rien au fait que ce qui te reste à expliciter, je pense, faute de temps, etc., on est d'accord, c'est pourquoi lui plutôt qu'un autre.
Oui.
Et du coup, ma question, c'est, entre le dominus et le magister, est-ce qu'il n'y a pas place pour un troisième terme? C'est-à-dire, entre l'arbitraire, si tu veux, et la légitimité de celui qui conduit, c'est-à-dire du pédagogue, magister, est-ce qu'il n'y a pas place pour une autre figure, c'est une question, pour une autre figure qui serait peut-être justement intéressante à développer dans le cas de l'enseignement du design. Voilà, donc une remarque, une question.
Alors, je pourrais répondre de façon complètement humoristique en disant tout ça, c'est la faute de Jérémy. Parce que premièrement, il n'était pas obligé de m'inviter, et deuxièmement, il pouvait me donner 2 heures. Et avec 2 heures de conférence, je peux prendre un autre auteur et développer le raisonnement, hein, montrer que le jugement peut varier suivant l'autorité qu'on explicite. Alors, bon, plus sérieusement, je pense, il y a quelque chose quand même que je voudrais essayer de faire entendre sur le plan des notions, c'est que autorité et autoritaire, c'est pas la même chose. Voilà. Et que je pense que la démarche que j'ai essayé de suggérer ce matin, elle implique en effet de valider la notion d'autorité, mais pas celle de l'autoritarisme. Je pense assez facilement dire que si, par exemple, je prends tel ou tel texte de Maldonado, ou bien pourquoi pas, faudrait que je réfléchisse, Hotleicher, je pourrais dire, Hotleicher non, Maldonado peut-être, cette histoire de poteau cruciforme, c'est négligeable. C'est pas une question. Je pense qu'il y a toute une partie de gens qui ont inscrit leur nom au nom du design diraient c'est même pas un cas dont il faut discuter. Ensuite, je n'ai fait qu'une chose finalement modeste qui consiste à dire je me projette par hypothèse dans une classe. dans laquelle je vais projeter sur une diapo un cas de design. Le simple fait qu'un professeur fasse ça pour les étudiants ou pour les élèves, ça peut être un geste autoritaire. Je vous l'ai montré et ça y est, c'est rentré et c'est imposé par la structure institutionnelle dans laquelle on est en train de travailler. La tâche du professeur qui se veut enseignant et pas maître, c'est d'expliciter pourquoi il a projeté ou elle a projeté cette diapo, ce qui n'est possible qu'à partir du moment où on choisit un texte. Alors, troisièmement, pourquoi j'ai choisi le texte de Moholy? Je pourrais dire tout simplement parce que je n'ai pas une puissance de travail infinie et que les textes que je peux invoquer ne sont pas eux-mêmes en nombre infini, que de toute façon, une situation pédagogique est toujours limitée et que on n'aura pas de temps, on n'aura jamais assez de temps. Bon, au moins, il y a une explicitation minimum. Voilà. J'ai dans mon exposé à la fin, alors c'était peut-être pas assez clair, pas vraiment explicité, mais quand même laissé entendre qu'il y avait des enjeux pour moi au-delà de la pédagogie dans tout ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire à quelle idée du design vaut-il mieux se référer? Vaut-il mieux se référer, mais pas pour moi, vaut-il mieux se référer pour nous? Voilà. Nous qui ne sommes pas designers, qu'est-ce qui vaut mieux que les designers pensent de leur propre spécificité? Je ne dis pas discipline, je dis spécificité. Voilà.
Ouais, merci beaucoup Pierre-Damien pour votre présentation. Je vous rejoins tout à fait sur cette idée d'objectivité du discours qui est tenable finalement, autorisée, vous avez utilisé ce terme d'autorisation, si elle s'appuie justement sur des cas, sur des études de cas pratiques et textuelles. Et en fait, ma question c'est la suivante, c'est vous avez beaucoup utilisé le mot d'idée, oui. Et plutôt que de connaissances ou de savoir et autres. Et du coup, est-ce que par les connaissances et les savoirs, on les rattacherait plutôt à ces études enfin, au paradigme et aux exemples, et les idées plutôt au cas, où justement on va dégager des choses qui restent ouvertes, alors que finalement, peut-être que c'est peut-être le terme le plus. Pourquoi idée, en fait? Quelle définition vous en donnez? C'est ce qui m'intéresserait.
Oui. Je vais faire une réponse qui est pas suffisante, mais je ne peux pas ne pas entendre dans le mot idée que c'est la même famille que idéal. Voilà. Ce serait ma réponse fondamentale. J'en aurais d'autres. Je peux faire l'histoire du mot. Enfin, je peux dire ce que ça veut dire. Bon, idée, ça vient d'un vieux mot grec, eidos, qui est dérivé d'un, enfin, qui est lié à un verbe grec oida, vieux grec, hein, qui était un verbe. En fait, c'est un verbe oida, c'est une forme passée dans la vieille langue grecque. Et ça veut dire j'ai vu. Littéralement, la traduction de donc eidos, c'est idée. Ça veut dire une vue. C'est une vue. C'est une forme de vue. Et oida, j'ai vu. Et en fait, ça voulait dire chez les Grecs donc je sais. Donc on traduit oida par je sais. Et donc idée comme une forme de savoir aussi par proximité sémantique. Donc on pourrait dire qu'entre la plus ancienne idée d'idée et le savoir ou la connaissance, il y a qu'à lire Platon, on voit bien qu'il y a un lien. Voilà. Mais revenons à nous. Et moi je garde ce mot idée. Alors peut-être aussi, ça serait une discussion avec Catherine pour distinguer du mot critère, peut-être. Enfin, c'est pas que des critères qui sont en jeu, ce sont aussi des idées. Et fondamentalement, ce mot m'intéresse parce que je crois que lorsque l'idée de design s'est décidée à être à peu près ce qu'elle est dans son sens moderne, qui est lui-même un sens riche puisqu'il y a au moins trois positions, bon, etc. Ceux qui ont décidé pour nous, il y a à peu près 150 ans, grosso modo, enfin pas tout à fait, l'idée de design, étaient des idéalistes. Et je crois que c'est très important et qu'il n'est pas évident que les savants, les scientifiques, soient aussi idéalistes. Et maintenir quelque chose, dire à nos contemporains que l'idéalisme est quelque chose d'important, Et je ne crois pas qu'il y ait la moindre proposition de design, au sens dont je pourrais moi en juger, qui ne soit pas, qui n'implique pas un idéal. Une idée au sens de idéal. Et un idéal, c'est quelque chose qui n'est pas encore produit, qu'il faut produire, qu'il faut approcher. Je ne sais pas si ça répond. On pourrait dire, parce que c'est un débat qui était déjà là ce matin, mais bon, il est tard, peut-être que je vais dire une phrase excessive. Je pourrais dire, au fond, l'un des problèmes de la pensée scientifique, du mode scientifique de la pensée, c'est que, au fond, l'exigence même de la démarche consiste à exclure l'idéalisme. Mais les humains ont peut-être besoin d'idéaux. Et heureusement que d'autres que les scientifiques sont porteurs, pour eux, de propositions quelque peu idéalistes.
Pour rebondir sur l'une des questions précédentes, quand vous dites que les designers ne sont ni des innovateurs ni des inventeurs, comment alors les qualifier ou par quoi les qualifier dans ce cas?
Ce sont des travailleurs seconds de la forme. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent... alors, on laisse de côté mon argumentation, là. On est sur un autre sujet, mon argumentation ce matin. Mais je vous répondrai ça. Ce qu'ils cherchent, c'est à mettre des formes au monde, à mettre de la forme au monde. Écoutez cette phrase en français. Hein, ils mettent les formes. Voilà, mettre de la forme au monde, sachant que ce n'est pas quelque chose qui advient spontanément du seul fait qu'il y ait des opérations techniques, et qui plus est, des opérations techniques économiquement enrôlées. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, l'économie dans l'affaire. Les techniques dont les humains sont capables sont économisées, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans un régime économique, et que la logique de ce régime économique, c'est pas de mettre des formes, c'est pas de mettre de la forme dans le monde. C'est peut-être plutôt, Catherine évoquait ce matin le capitalisme néolibéral. Moi, je dirais que ce capitalisme produit un monde uniforme. C'est le contraire de forme. Les formes sont différentielles et ou difformes. Voilà. Donc, si vous abandonnez la technique à son économie, à sa seule économie, vous risquez d'avoir un monde difforme ou uniforme. Et quelque part, les travailleurs seconds de la forme disent faut faire mieux. Voilà. Faut faire mieux que de laisser les techniques enrôlées par l'économie. Travailleurs seconds de la forme.
Merci.
Ma remarque est juste circonstanciée, parce qu'en fait, les étudiants qui sont là, en fait, et puis je ne suis pas le seul à avoir un problème de logique. C'est vrai que, du coup, si je fais une remarque un petit peu sur un terrain, sur le terrain de l'enseignement, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, à l'ICI, on a des méthodologies de la création-recherche, de création-recherche, on n'a pas des cours de méthodologie que nos étudiants n'avaient pas croire. Et dans nos enseignements, il y a quand même aussi à la suite du colloque, voilà, c'était juste pour moi. Et cette remarque est renvoie au substantif, c'est-à-dire que si on dit on, si la thèse développée, c'est qu'un terme sera autorité dans l'utilisation, dans le design. Un terme qui sera autorité dans l'utilisation, sans être ni exemplaire, ni paradigmatique, la thèse, oui, il reste une substance en design et. Donc, c'est notre problème. Et après, il y a peut-être un type de cas qu'on ajoute justification et exemplification. Donc, peut-être avec un type de cas, je ne sais pas. Mais voilà.
Oui, deux choses rapides. Catherine a dit ce matin. Et si j'ai bien compris qu'elle était très réservée à l'égard du mot discipline, n'empêche que quand il faut fabriquer des maquettes ou demander des budgets, on ne va pas dire on n'est pas une discipline parce que sinon on n'aura rien. Donc elle emploie quand même le mot, c'est ce que tu as dit. Bon, je fais la même réponse pour méthodologie, c'est-à-dire que je viens de faire une critique de la notion, pas en général, Il y a des disciplines dans lesquelles il y a des méthodologies. Je ne suis pas sûr qu'en art et en design, le mot soit fondé. Il n'empêche que quand j'étais en poste, j'ai fait des maquettes, j'ai fait des dossiers dans lesquels j'ai soigneusement écrit méthodologie du design, sinon on n'aurait pas eu les budgets. Mais bon, mais après, entre nous, on peut peut-être parler franchement. Voilà, hein, et dire, il a bien fallu mettre le mot méthodologie pour que le cours existe, mais n'empêche qu'on va réfléchir sur d'autres bases. Bon, ça, c'est un point. Et alors, l'autre chose, ça ne tient pas grand-chose. En fait, quand vous avez un chemin, et puis à un moment, il y a un angle, tout petit, hein, donc il y a un tout petit écart de deux fois rien. Mais si vous prolongez, ce qui est deux fois rien, à la fin, ça fait beaucoup. Ben c'est pareil pour des expressions du langage. Par exemple, un terme fait autorité, as-tu dit. Un terme qui fait autorité. Moi, je ne parle pas tout à fait comme ça. Donc, c'est là où est la petite déviation qui finit par être peut-être une divergence. Je dis que j'essaye de faire travailler sur des termes, sur un terme qui renvoie à des auteurs. Faire autorité et renvoyer à des auteurs, pour moi, c'est pas la même chose. Parce que renvoyer à des auteurs, précisément, il n'y a pas une autorité. Et en même temps, le renvoi aux auteurs n'est pas à l'infini vague. Il n'y a pas tout le monde qui est auteur. Et il n'y a pas 36 000 positions qui aient donné lieu à ce fait-là d'avoir affaire à des auteurs. Donc, design est pour moi un terme qui renvoie à des auteurs et pas un terme qui fait autorité.
Ok, merci. Bonjour. Ici.
Où est-ce?
Okay. Bonjour. Là-bas. Ouais. Et je voudrais vous demander, comme étudiant, maintenant, je crois que nous sommes en train de développer notre critère pour pouvoir bien juger les éléments d'un projet. Et je crois que beaucoup de fois, nous avons une autorité qu'on doit choisir. Mais ça, je crois que je trouvais ça problématique. Comment est-ce que j'ai pu avant déjà choisir sans me mettre dans une posture biaisée, une posture qui me limite à pouvoir aussi voir les points contraires de mon investigation pour pouvoir bien servir au projet.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. D'ailleurs, je vois très, très mal, mais...
Je ne sais pas, j'ai compris, je ne sais pas si je suis sûr sur ça, mais on doit, pour éliminer une structure éducative de hiérarchie et d'autoritarianisme, que nous, comme designers, nous devons choisir une posture primaire pour observer les cas d'études. Mais j'ai la sensation de que beaucoup de fois, on peut commencer déjà avec une limitation, une perspective qui c'est pas ouverte, une perspective qui va choisir déjà cette autorité, on va choisir déjà avec une réponse qu'on veut. Qui nous a autorisé. Donc, comment est-ce que nous pourrions être un peu plus ouvertes, en même temps, n'être pas si ouvertes pour avoir une investigation sans limite?
Alors, je sais pas si j'ai bien compris exactement ce qui vous préoccupe, mais enfin, ce que j'ai envie de vous dire en réplique, au fond, hein, à ce que vous dites, c'est que vous parlez d'un designer en train d'opérer au travail, si j'ai bien compris. Moi, je parlais pas de ça. Je parlais de quelque chose qui est l'enseignement du design, qui est donc pas le design en train de se faire. Mais si vous parlez du designer en train de travailler, je dirais tout simplement en pensant au texte de Molly, mais Catherine va me reprocher d'être arbitraire, mais en pensant au texte de Molly, que pendant que le designer opère, il n'écrit pas. Ça ne veut pas dire, pour reprendre son exposé à elle de ce matin, qu'il ne va pas réfléchir en même temps. Mais en tout cas, pendant qu'il est en train de se demander s'il faut faire un poteau cruciforme ou autre chose, il n'est pas en train d'écrire un texte. La condition de possibilité du design, quelle que soit d'ailleurs au bout du compte la position théorique qu'on adopte, c'est de dire qu'il y a plusieurs solutions. Voilà. S'il n'y a qu'une seule solution technique, il n'y a pas de design. S'il y a plusieurs solutions, alors après la question de savoir si le design participe à l'élaboration de la solution, de la pluralité de solutions, ou bien s'il choisit seulement dans cette pluralité, etc. Bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai essayé de dire, mais en tout cas, le design n'est possible qu'à partir du moment où il n'y a pas, à quelque situation que ce soit, une seule solution technique. Et ça s'oppose quand même quelque part au discours de Kuhn qui dit que justement le travail, la tendance du travail des scientifiques, c'est de trouver la solution dans un contexte donné, à un moment donné, d'une énigme.
Oui, merci.
C'est-à-dire que quel que soit le choix du designer, un autre design aurait été possible.
Oui, merci beaucoup.